historique. Ils l'ont fait. Après 120 ans, le RC Lens remporte pour la première fois de son histoire la Coupe de France.
J'ai pas pleuré beaucoup dans ma vie de joie. Et j'ai pleuré deux fois ce soir, j'ai pleuré deux fois de joie.
On est venu et on l'a fait. Magique.
Voir autant de ferveur, c'est unique. Et tout ça pour l'amour d'un putain de maillot. Et pour l'amour d'une équipe qu'on adore. On a une saison de malade, on a une équipe de fous, on a une histoire à écrire et surtout un peuple à récompenser.
On l'attend depuis des années, donc cette année, elle est pour nous.
On est venu pour ramener la coupe à la maison. Allez, Lens !
Et oui, on se plonge dans l'ambiance de cette finale de Coupe de France remportée par le Racing Club de Lens et le festival Ciné-Comédie sur les territoires de Lens et Liévin, qui s'est déroulé du 4 au 7 juin et soutenu par la région Hauts-de-France et qui est né en 2018 avec une conviction, la comédie mérite sa place dans le patrimoine cinématographique et dans les grands rendez-vous culturels. Cette année, le festival fête ses 10 ans et se met aux couleurs sang et or du Racing Club de Lens qui vient de remporter donc la Coupe de France et termine deuxième du championnat. CQFD, le RC Lens sera en Ligue des Champions pour 2027. Je vous propose un reportage réalisé samedi 6 juin au Colisée de Lens lors d'une table ronde autour du thème football et comédie avec pas mal d'invités. Pour l'occasion, entre autres, le scénariste, réalisateur et écrivain Fabien Otaniente, Gustave Kerven, mais aussi Gervais Martel, président mythique du Racing Club de Lens, Sarah Mbarek, entraîneur de l'équipe féminine du Racing Club de Lens également, et surprise, Stomy Bugsy, qui a joué le rôle d'un footballeur bien connu dans le film 3-0 et 4-0 de Fabien Otaniente. Vous pourrez entendre les interviews de ses invités au cours de ce sujet. Mais on commence tout de suite par une question que j'ai posée aux invités lors de cette table ronde, leur meilleur ou pire souvenir en termes d'émotion dans le milieu du foot.
Tout simplement la montée en première ligue avec l'équipe du RC Lens la saison dernière. Ça a été l'aboutissement d'une très longue saison, d'un long travail, d'une longue construction et une belle récompense pour les joueuses, pour le club, pour le staff évidemment et pour les supporters qui étaient là.
Moi je peux parler de 2018. C'est le moment où je tournais une belle équipe ici, donc pas très loin d'ici. Et j'ai vécu trois jours extraordinaires parce que, bon, déjà c'est l'année où j'avais pas mal fait de choses. Et en fait, au moment où je tournais le film, donc Vitry en Artois, c'était au moment où on tournait le foot. On tournait tous ces matchs, on avait commencé jeudi, vendredi, on retournait le lundi, mardi. On avait quatre jours de foot. Et il se trouve que c'était en plein mois de juillet. Et que c'était le 12-13 juillet. Je suis rentré à Paris le 14. J'ai un enfant qui est né le 14 juillet. Et le lendemain, c'est la finale de la Coupe du Monde que j'ai vue à l'hôpital avec ma femme et mes deux autres enfants de 2018 avec Mbappé. Je suis un bon dimanche, donc ça m'a touché. Et le lendemain, j'étais ici en train de filmer sur le terrain de Vitry-en-Artois. Donc ces quatre jours-là de foot, c'est des émotions de foot particulières. La Coupe du Monde, Vitry-en-Artois et un petit garçon qui s'appelle Gabriel et qui est né au milieu de tout ça. C'est des souvenirs qui mélangent un peu tout ce que j'aime, c'est-à-dire le foot, le cinéma, la famille, c'est un peu ça.
Je vais parler d'une émotion négative, mais je vivais dans une chambre de bonne à Pigalle. C'était le match France-Allemagne en 82. Ah, ouais. Et donc j'avais vu le match avec mes potes, c'était une période de vache maigre. Et en fait, ce match, il m'a fait monter, descendre, monter. Et je vivais dans un quartier où il y avait beaucoup de touristes. Et j'étais tellement dégoûté que j'ai crevé des pneus de garage.
Il y a quoi pour se réduire, hein.
Moi, la meilleure, alors, en tant que joueur, forcément, c'est un peu c'est le titre, on le sait très bien, c'est l'apothéose et le plaisir qu'on a donné forcément aux gens et le plaisir qu'on a pris aussi avec cette équipe. Mais ma plus grande émotion ou fierté, c'est quand Gervais me rappelle comme entraîneur, le club descend en Ligue 2. Il y a quand même pas mal de problématiques financières, une grosse dette. Il me dit, écoute, on a une année pour remonter, on n'en aura pas deux, sinon le club est mort. Et finit champion. Donc ça c'est important dans une vie d'homme et d'entraîneur. J'étais un ancien joueur, les gens me connaissaient, mais ne connaissaient pas forcément en tant qu'entraîneur. Et on avait 200 personnes sous notre responsabilité. Et je voyais des gens qui tous les matins me disaient, ils n'avaient pas besoin de parler, ils me regardaient, ils disaient, coach, il faut y aller parce que sinon on ne va plus exister. Donc ça c'était important, même si ça a été minimisé par moment, parce que logique que l'on se remonte, voilà, demander à Saint-Étienne, je m'en parlais après, demander à Bordeaux, demander à Metz, bon, qui fait malheureusement de temps en temps l'ascenseur, à Nancy, enfin des anciens grands clubs. Hein. On parlait avec Shérif de Laval, alors ça fait longtemps, mais ça a été un club de première division. Et la plus grosse douleur, et ça reste toujours là, c'est pas le 9 là que j'ai, là je peux te dire, c'est quand je prends en main l'équipe de Saint-Étienne. Ah, ouais. Avec Rudy Garcia, je suis joueur et on me demande d'entraîner. Rudy Garcia, qui est aujourd'hui sélectionneur de la Belgique, que vous connaissez certainement, qui va jouer la Coupe du Monde. On gagne les trois premiers matchs dans une situation compliquée quand même. Hein, Geoffroy Guichard, Saint-Etienne, c'est pas n'importe quel club. Et derrière, on m'annonce un lundi matin que on perd 7 points. Donc là, t'as le monde qui s'écroule parce que t'as 31 points. T'as battu Nicolas Nelka, en plus, c'est Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, 1-0 à Geoffroy Guichard. Il y a une ferveur de malade, t'as dit des choses et tu les as faites, enfin on les a faites avec le groupe. Ouais, et on a eu l'histoire des faux passeports que les gens ont oublié aussi, avec Alex Alosio, les Brésiliens qui ont été au PSG, et un Ukrainien que malheureusement, donc il y a eu cette affaire-là, et donc ça a été très très compliqué pour nous, puisqu'on est passé de 31 à 24, pardon. Et derrière, j'ai fini deux mois compliqués, puisque avec mon président ça s'est pas très bien passé. Je lui ai dit quelques vérités, ça a été mon grand défaut peut-être aussi. Et puis il m'a relégué, j'étais plus joueur, plus entraîneur. Donc je peux vous dire que c'est quelque chose de compliqué à vivre quand vous vous êtes mis sur le devant de la scène, parce qu'il n'était pas tout à fait clair là-dessus. Et derrière, j'ai eu la chance de revenir la dernière année de ma carrière, à Lens, où on perd le titre, à Lyon, où ça a été forcément aussi une déception. Mais moi, à 35 ans, je voulais me faire fort de jouer, d'encore jouer, de me prouver à moi-même, puis aussi... Et malheureusement, à Lyon, si on avait été champion de France, ça aurait été magnifique, ça aurait été le deuxième titre. Mais surtout, en tant qu'ancien Stéphanois, battre des Lyonnais, ça aurait été l'apothéose. Mais bon, on fait la Champions League. Je pense qu'on a été très déçus, mais comme cette année, le fait d'avoir été deuxième cette journée-là, c'est quand même exceptionnel avec ce groupe-là. Donc voilà, c'est des émotions, mais surtout de la fierté, ou alors vraiment quelque chose qui me sert encore, parce que quand vous êtes plus ou moins mis à l'écart, alors que... Bon, ça s'est mal passé, c'est pas agréable à vivre, mais comme j'ai dit, ça reste que du football et il faut prendre du plaisir malgré tout.
J'ai eu la chance, je suis rentré en 86 au RC Lens, j'ai vécu 40 ans de bonheur jusqu'à maintenant, parce que même quand il y a eu des moments difficiles, c'est là d'abord on reconnaît ses potes, hein, parce que dans les moments de victoire, tout le monde est sur la photo, et on a toujours une solidarité ici extraordinaire, donc j'ai eu la chance de rencontrer ce club et que ce club m'accepte comme président, que des gens m'aient mis à cette place-là. J'ai eu la chance que ma femme, qui est avec moi depuis 46-47 ans, me supporte. Ma fille aussi, qui est ici dans la salle. C'est que du bonheur pour moi. Donc j'ai pas de trucs extraordinaires ou de trucs moins bien. Je suis toujours dans le bonheur. Voilà.
J'ai aucune mémoire, donc je me rappelle même plus de qui a gagné la Coupe du Monde. Alors je regarde tous les matchs, je ne me souviens de rien. Mais moi je dirais c'est plutôt lié à l'enfant. Je suis arrivé de l'île Maurice, je suis arrivé à Nice, et quand j'étais petit, j'allais tout seul au stade à 14 ans, au stade du Ray, voir Bjekovic, Baratelli, Katalinski. Je connais tous les noms des joueurs de cette équipe-là par cœur, bien sûr. Et c'est des choses qu'on ne peut pas oublier, c'est dans sa mémoire d'enfant. D'ado, c'est le moment que je passais tout seul au stade, je connaissais personne, mais j'aimais bien aller au stade tout seul. Et puis dernièrement, quand même, je dois dire un souvenir, j'ai tourné une série avec Eric Cantona qui s'appelle Dérapage. Et j'avoue que y a des gens comme ça que je me dis, tiens, moi, un petit gars qui arrive de l'île Maurice, qui fait du cinéma un peu par hasard, de la télé par hasard, tout par hasard. Je me retrouve avec un mec comme ça en train de boire du vin à la cantine le midi du tournage. Donc voilà, ça fait partie un peu du conte de fées de ma vie quand même. Donc c'est appréciable de pouvoir rencontrer des gens de ce niveau-là, de ce talent-là, quand on vient de nulle part.
Alors moi, mon traumatisme dans le foot, je pense que c'est à chaque fois que je vois le héros d'une équipe que j'aime rater son pénalty, notamment quand j'ai vu Roberto Baggio rater son pénalty, et ce qui m'avait fait mal, moi j'ai toujours supporté aussi le Brésil, et quand j'ai vu Dr Socrates aussi, il tirait les pénaltys chaque fois pareil, sans prendre de l'élan, et quand Bats a attrapé son pénalty directement, ça m'avait un peu traumatisé. Quand j'étais petit, j'avais le maillot du Brésil, mon père me l'avait ramené. Quand j'étais petit, je n'étais pas pour la France, j'étais pour le Brésil. Et la seule fois où j'ai été pour la France, c'était en 2006. Et ça aussi, ça a été un traumatisme. J'ai pleuré pendant 3 jours. Je suis parti aller les voir au Crillon, dans la foule, et aller les applaudir et les remercier. Parce que c'était douloureux, mais en même temps, c'était beau, la tragédie de Zidane. Et c'est vrai que quand les films qui nous ont touchés le plus, c'est souvent quand le héros il meurt à la fin. Et cette finale, c'était ça, le héros était mort à la fin. Mais c'est la beauté, la tragédie du football, on ne peut pas gagner tout le temps. Même si on pense qu'on va gagner, mais malheureusement, non. Et c'est ça qui est beau dans ce sport, voilà.
On parle toujours foot à présent en compagnie de Gervais Martel et Sarah Mbarek pour l'équipe féminine.
Je vais vous dire un truc, ça va peut-être pas faire rire tout le monde, mais les footballeurs sont des grands acteurs, notamment sur le terrain. Souvent, ils restent allongés 3 minutes pour une petite faute, donc ça a le don de m'énerver, mais bon, ça, le rapport du foot et du cinéma, c'est quelque chose de logique, quoi. Le cinéma, c'est le haut de l'affiche, comme on pourrait dire, et le foot, c'est le sport numéro un dans le monde. Donc ça se ressemble et ça s'assemble.
Et ben voilà, la fin de saison s'achève. Deuxième du championnat, on est en Ligue des Champions et on gagne la Coupe de France.
Ah, moi j'ai vécu un truc de malade, comme tout le monde d'ailleurs. Moi ce que je retiens quand même, d'abord c'est qu'on l'a gagné. C'est quand même la première fois qu'on le fait. Et deuxièmement quand même cette osmose, cette ambiance. J'allais dire même dans l'euphorie, cette sérénité entre tous les gens, pas un seul incident. Que ce soit à Bollard, que ce soit dans les fans zones autour, que ce soit évidemment au Stade de France, on peut être fier d'être Lançois.
Et enfin, alors, le mercato, il va arriver. Il y a beaucoup de départs, notamment le départ de Pierre Sage, on a tous été un peu sur le cul, on ne savait pas trop. Comment ça se fait qu'il part maintenant ? Comment vous voyez ça, vous, en tant qu'ancien président ?
Moi, je ne suis pas étonné, vous savez, le football, c'est ça, c'est de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, il a certainement la possibilité d'avoir un salaire multiplié par je ne sais pas combien en Angleterre. Donc c'est des occasions peut-être qui ne se présenteront plus jamais. Aujourd'hui, on est suffisamment intelligent et armé à lance pour compenser. Vous savez, dans le temps, quand il y avait des calèches avec des chevaux, quand le cheval était fatigué, on en mettait un autre. Bon, ça va perdurer.
Et j'aimerais un petit mot quand même pour terminer sur cette fameuse pépite Mesiam Mesloub, qui est rentré à 18 secondes et il met le but qui donc remet Nantes en deuxième division et en même temps, voilà.
Moi, j'étais content, surtout parce que je connaissais bien son père, je l'ai eu comme joueur.
Et il était capitaine de l'équipe de Lens, d'ailleurs.
Évidemment, donc extrêmement heureux pour la famille. Puis le gamin, il va se souvenir toute sa vie. Maintenant, il faut qu'il confirme. C'est ça le plus dur dans le football, c'est confirmer.
Sarah, bonjour.
Bonjour.
Alors là, il vient d'avoir une table ronde, donc assez monumentale quand même, avec plein de choses sur le foot, mais aussi on évoque le foot féminin. Comment vous l'avez vécu, cette table ronde ?
C'était en effet hyper sympa, parce que des grands noms hein, du football, des grands noms aussi de la comédie. C'était intéressant de partager un petit peu ces deux mondes et d'en faire un parallèle. Beaucoup de discussions très enrichissantes. Et j'ai trouvé ma place, donc c'est cool.
Bah ouais, parce que le foot féminin, c'est vrai que ça a été pendant pas mal de temps un peu rechigné. Moi, j'étais plutôt fan du foot féminin, je trouvais qu'il y a moins de fautes. C'est beaucoup plus fair play. Vous, votre point de vue un petit peu sur le foot féminin qui a évolué depuis ?
Oui, en effet, on est en plein essor, pleine évolution. Le football féminin en France est devenu professionnel. Il faut encore que les équipes nationales, notre équipe nationale, puisse gagner un titre. pour donner encore plus d'élan. Mais c'est vrai qu'il y a du travail qui est fait auprès de la Ligue professionnelle de football, auprès de la Fédération française de football. Et dans les clubs, surtout, on travaille ici à Lens depuis l'année 2020. Où a été créée la section féminine, on a vraiment beaucoup évolué, on s'est structuré, on a réussi à atteindre la première ligue. Alors on redescend cette année, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail qui a été fait quand même. Voilà, c'était intéressant de pouvoir participer à cette table ronde pour justement faire en sorte qu'on n'oublie pas l'existence du football féminin et qu'on ait un petit peu plus de crédit tout simplement.
Oui, parce qu'il faut dire quand même que malheureusement, l'équipe féminine termine 11e du championnat. Donc, elle va redescendre en Ligue 2. Bon, ça présage quand même pas mal de choses. J'imagine qu'il va y avoir un mercato, etc. Vous avez également entraîné Montpellier, si je me souviens bien, et puis d'autres clubs également. Votre aventure avec Lens, comment ça se passe? Alors, dites-moi un petit peu, parce qu'il y a quand même une ferveur assez trépidante, on va dire, au niveau supporter, etc.
En effet, c'est ma 6e année à Lens. J'ai fait pas mal de clubs avant. J'ai rarement connu la ferveur qui existe ici. Moi, je suis super fière et super heureuse de faire partie de ce club, de rencontrer les gens, de pouvoir échanger. C'est vrai que ce qu'ils nous disent, c'est que les femmes et les joueuses de foot sont accessibles et c'est ça qui plaît. Elles sont vraies, elles sont dans l'échange, elles sont toujours disponibles pour une photo, pour un autographe, un petit peu plus que les garçons qui ont peut-être plus l'habitude. Donc oui, c'est vrai que cette ferveur populaire, elle est grandissante pour le football féminin. Même s'il y a la relégation, je suis certaine qu'il y aura du monde dans le stade tous les week-ends. Et ça va nous donner une force supplémentaire pour pouvoir remonter.
Et dernière question bonus. Évidemment, bon, côté masculin, on a gagné la Coupe de France. Comment vous l'avez vécu?
Ah, c'était fabuleux. On était les premières supportrices. On était toutes derrière eux. Moi, j'ai déjà vécu ça dans un ancien club. Ouais, à Guingamp. À Guingamp, ouais. Voilà, c'était génial de pouvoir participer à une finale de Coupe de France, d'aller au Stade de France, de retourner à Bollard pour accueillir les joueurs. Et ouais, je suis super fière du club et super fière de cette performance.
On retrouve le réalisateur, scénariste et écrivain Fabien Otaniente pour évoquer son dernier livre, le cinéma, mais aussi son rapport au foot.
Fabien, cette table ronde, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Oh bah écoutez, c'était intéressant parce que il y avait quand même au centre du jeu le président historique du RC Lens, Gervais Martel. Donc moi, ça m'a forcément ému. C'est quelqu'un qui est extraordinaire. D'ailleurs, vous avez vu ce qu'il a dit. Il a dit, moi, depuis que je dirige le RC Lens, j'ai eu que du bonheur. Alors ouais. Cette phrase, elle est à méditer.
Avant de parler un petit peu de votre livre, vous, la finale de la Coupe de France, vous l'avez vécu certainement aussi, comme nous.
Ah oui.
Voilà, ça faisait 120 ans qu'on ne l'avait pas capté, et là, on l'a fait.
Ouais, j'étais très heureux. On était tous un peu, je sais pas, la France du foot, quand elle aime le foot, on n'a rien contre les Niçois, hein, mais on était tous un peu sans et hors ce soir-là. Parce que c'est vraiment une terre dont on sait que ça va apporter beaucoup de bonheur à ce bassin. Et puis moi j'ai une tendresse pour ce public, j'ai une tendresse, je les aime beaucoup. Ils m'ont toujours, quand j'ai fait des films, quand j'ai fait le Nord, pour Camping, pour 3-0, pour tous les films, on a toujours été bien accueillis. Je me rappelle de cette salle à l'Homme, qui est une très grande salle. J'ai d'ailleurs mes empreintes là-bas. Et donc,
ah oui.
Ouais, j'ai mes empreintes. Ouais.
Comme à Hollywood alors.
Comme à Hollywood. Ouais. Et cette salle de l'Homme, et moi j'ai adoré. Voilà. Donc je suis très heureux pour Lens.
Alors donc, en même temps, aujourd'hui, vous êtes là en séance de dédicace avec votre livre. J'ai envie de dire, alors, on n'attend pas Fabien.
Ouais, oui,
parce que un clin d'œil avec le film Camping, évidemment, avec Patrick.
Oui, ouais. Ouais, c'est l'histoire de ma vie, du HLM au box-office, parce que rien, quand j'étais petit, ne prédestinait à avoir un succès populaire, à être au haut du box-office. Donc j'ai tenu à remercier la vie et surtout à montrer à des jeunes qu'on peut toujours y arriver. Parce que si l'aventure est dangereuse, la routine est mortelle. Et donc, faut toujours y aller. Et puis bon, comme je le dis dans le livre, quand il n'y a plus d'espoir, toujours penser au homard dans le vivier du Titanic.
Ouais, ça, je me souviens de cette phrase. Évidemment, le foot, vous l'avez connu et vous en parlez un peu dans votre livre avec les premiers matchs à Colombes.
Oui, bien sûr. C'est avec Colombe, j'allais avec mon papa, j'ai vu la première impression de ce qu'est un stade, un carré vert, un public qui chante à l'unisson, des couleurs magnifiques, et puis ce public qui vient écouter chanter le cuir, comme on dit. Donc ça m'a marqué, et je crois que c'est pour ça que j'ai eu un jour fait un film sur le football, qui était 3-0, puis une suite qui s'appelle 4-0.
Et il y a Tom Lee Bugsy, d'ailleurs, qui joue dans le film.
Dans les deux films.
Avec son numéro 9 dans le coup.
Ouais, voilà, son numéro 9 historique, qui joue Michael Silva, qui est une sorte de Nicolas Anelka. Et ça me faisait marrer de mettre un peu ces ambiances, ces attitudes de foot star, de footballeur star, avec un rappeur qui est joué par Stomy, qui est excellent, qui a pris beaucoup de plaisir à le faire.
Dans votre livre également, vous parlez beaucoup de votre famille, votre enfance forcément, la rue, parce que c'est là aussi où tout se construit, pour tout gamin, pour tout ado. Le rapport entre votre père et votre mère, c'est différent. Votre père, il était un petit peu plus austère,
mélancolique,
alors que votre mère, elle vous soutenait à fond, à chaque fois.
Ouais. Elle a fait en sorte que je puisse faire du cinéma, parce que mon père ne voulait pas du tout. C'était un métier de guignol pour lui. Et voilà, je lui dois beaucoup à ma maman. Et donc c'est un hommage à cette maman qui s'appelle Alphonsine. Et voilà.
Et vous le dites d'ailleurs beaucoup, à chaque fois. Hein, dans le livre, on retrouve des phrases comme quoi vous dites...
C'est une Bretonne au caractère très fort et qui a toujours positivé dans la vie. C'est pour ça que je m'en suis sorti et je suis arrivé où je voulais arriver. Parce que mon père, lui, m'avait dit... Te lance pas dans le cinéma, c'est une aventure perdue, beaucoup d'appelés, peu d'élus, et finalement, grâce à Alphonsine, j'y suis arrivé.
Il y a plein de personnages dans votre livre. Moi, j'aimerais bien juste, pour terminer, que vous me parliez de Manu.
Manu l'homme qui mue, c'est un personnage cosmique qui est intervenu dans ma vie, qui s'est posé comme un oiseau de nuit sur mon épaule et qui m'a éclairé ma vie en me donnant de la lumière et en me montrant que on peut toujours filmer autrement, des perspectives. C'est le premier inventeur du rap, quelque part. Parce qu'il twist avec la vie. C'est un personnage... C'est un cosmique. C'est un martien.
Il le dit, d'ailleurs.
C'est un martien. C'est un martien. Et donc, j'ai rencontré dans ma vie un martien. Et je conseille aux gens de lire ce que c'est qu'un martien. Parce qu'on n'en rencontre pas à tous les coins de rue, en tout cas.
Et ben voilà, on rappelle donc, on n'attend pas Fabien.
Faut dire avec le ton. Alors, on n'attend pas Fabien.
Et ben voilà.
Et enfin, on termine avec Stomy Bugsy, présent lors de cette table ronde, et Gustave Kerven, à qui on laissera le mot de la fin.
Stomy, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, d'abord, première question, il y a une table ronde, donc il y a eu pas mal d'échanges entre pas mal de gens qui, évidemment, sont dans le monde du foot, mais pas que. Aussi du cinéma. Qu'est-ce que tu en as pensé ?
C'était intéressant de me retrouver ici avec Fabien Antoniente, monsieur Gervais Martel, d'être là avec tous ces grands messieurs autour de nous et de parler de foot, de musique et de cinéma surtout. C'était intéressant, j'ai passé un bon moment.
Et t'as plus ton numéro 9 sur ton cou.
Non, j'ai le 29 maintenant.
D'accord. Il y a pas mal d'actualités, évidemment, pour toi aussi. Nouveau single qui va sortir bientôt. Il y a pas mal de choses aussi en préparation.
Exact. Il y a un titre, une chanson qui s'appelle Revolver Lover, qui est sortie le 21 mai. Vous pouvez retrouver sur toutes les bandes de streaming. Et une nouvelle chanson qui arrive le 19 juin aussi. Donc... c'est mon grand retour en musique, là, je suis très très content.
Et dernière question bonus, la Coupe de France a été remportée par le RC Lens 120 ans après. Qu'est-ce que toi, est-ce que tu l'as vécu ? Qu'est-ce que ça te parle ? J'imagine peut-être que tu es plutôt fan du PSG.
Oui, mais même, vous savez, même si on est fan du PSG, Lens, ça représente, dans le paysage français, Lens, ça représente quelque chose de fort. Lens, ça représente déjà les mineurs, la fierté et les travailleurs. L'honnêteté, le sourire, la chaleur. Mes meilleurs concerts que j'ai fait, les plus chaleureux, c'était dans la région. C'était ici, notamment à Hénin Beaumont.
Et Hénin Beaumont, malheureusement, qui est tombé dans l'escarcelle du RN. Hein.
Oui, pour l'instant, mais on va les chasser bientôt, vous inquiétez pas.
Gustave, bonjour.
Bonjour.
Alors, bon, on s'est déjà vu plusieurs fois dans le cadre du Arras Film Festival. Oui. Présentation de film avec votre compère Benoît Delépine. Oui. D'ailleurs, comment il va ?
Bah, il va très bien. Il a sorti un film vraiment magnifique qui s'appelle Animal Totem, que je vous conseille d'aller voir. Très, 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 très beau film. Et moi, de mon côté, j'ai fait un autre film tout seul parce que nos chemins se séparent légèrement, on va dire. J'ai fait un film que je vais sortir peut-être l'année prochaine qui s'appelle Voilà, c'est fini, que j'ai tourné avec Maurice.
Un rapport avec une chanson de téléphone ?
Non, non. Enfin, j'aimais bien ce titre, mais non, mais c'est un drame, c'est pas une comédie. Ça se passe à l'île Maurice. Et voilà, je suis très
d'où vous êtes originaire d'ailleurs ?
Oui, je suis originaire de l'île Maurice. Et donc ça fait des années que je veux tourner un film chez moi, on peut dire, parce que toute ma famille est encore à l'île Maurice. Et là, j'ai enfin réussi à le faire et je suis vraiment très très heureux du film. Il y a Suzanne Lindon, Mathieu Amalric et Léa Drucker en personnage en français, on va dire. Et il y a beaucoup de Mauriciens qui jouent et ça se joue en créole aussi, ce qui est rare pour un film. Il y a la langue créole. Donc je suis très très heureux. J'espère venir le présenter ici prochainement.
Bah ok, histoire à suivre. Bon là, on est donc du coup au cœur du festival Ciné-Comédie. Il y a eu une table ronde avec plein de gens du foot. On parle de foot. Comment vous l'avez vécu, vous, cette table ronde ?
Bah très bien. Je me disais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire au départ, surtout moi. Mais finalement, il y a pas mal de choses à dire. Et puis comme on était nombreux, je trouve que toutes les interventions étaient pertinentes, ce qui n'est pas toujours le cas des tables rondes.
Le foot féminin aussi a été abordé. Il commence à grimper un petit peu plus. J'ai eu Sarah tout à l'heure, donc Mbarek, qui est entraîneur de l'équipe de Lens, qui dit que ça commence à bouger un peu plus, mais les salaires sont toujours pas non plus équivalents au football masculin.
Bien sûr qu'on est pour la parité, pour l'égalité des salaires, etc. Après, est-ce que c'est réalisable dans la mesure où le foot masculin attire beaucoup plus que le foot féminin? Après, c'est des trucs de capitaliste que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, globalement, dans la société en général, bien sûr que je suis pour que les femmes gagnent autant que les hommes. Et vu que c'est pas du tout le cas, ce serait bien que ce soit fait.
On a gagné avec le RC Lens la Coupe de France. Ça faisait 120 ans qu'on attendait ça. Vous, est-ce que vous l'avez vécu d'une manière ou d'une autre ?
Ben, c'est un des rares matchs que j'ai loupé, malheureusement. Je regrette parce que maintenant que je suis ami avec Gervais Martel, forcément, je souhaitais la victoire de Lens. Non, je viens de Nice, donc il y avait un dilemme. Hein, Non, j'adore le public lensois. Je trouve que ce que je disais tout à l'heure lors de la table ronde, je disais que Lens, c'est exactement la panacée du foot, c'est-à-dire un public formidable, des dirigeants humains, généreux, des footballeurs qui mouillent le maillot, qui se donnent vraiment à fond pour le club. Pour moi, c'est ça, c'est cette osmose entre ces trois acteurs du spectacle qui fait que Lens, c'est une des rares villes où il y a les trois en même temps.
C'est le foot populaire, un peu comme vos films à vous vous, Gustave, et à Benoît, populaire, et en même temps, ça inspire le respect, tout simplement.
Ben merci. Alors on pourrait dire que c'est le dernier mot de cette interview, un dernier mot que je trouve magnifique.
Et au coup de sifflet final, la récompense du peuple lensois, après une saison fantastique, une soirée historique et une soirée jusqu'au bout de la nuit en forme d'apothéose.
Reportage réalisé lors de la 10e édition du festival Ciné-Comédie qui s'est déroulé du 4 au 7 juin à Lens et Liévin.
Eh ben, ça fait beaucoup d'émotions, 120 ans, et c'est la première, donc c'est celle qui écrit l'histoire.